comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Bruno Fuligny, nous allons plonger dans la vie sulfureuse de Mata Hari avec ce livre Mata Hari, les vies insolentes de l'agent H21 aux éditions Gallimard. Alors on pense peut-être avoir tout dit ou connaître tout sur Mata Hari, mais finalement il y a encore des secrets, et ces secrets vous les dévoilez à travers de nombreux documents qui sont à la fois des documents d'époque, mais des photos, des documents d'archives, à travers la vie de celle qui a peut-être été la plus célèbre femme espionne de tous les temps.
Aujourd'hui, on dit une Mata Hari pour dire une espionne. Son nom est devenu un nom commun. Il est vrai que c'était un nom extraordinaire. Bien sûr, un nom de scène, car elle ne s'appelait pas Mata Hari. Elle s'appelait Margrethe Gertruda Zell. Et celle qui a été encensée, célébrée comme une grande danseuse orientale, initiée au mystère de l'Inde, était une néerlandaise qui n'avait jamais mis les pieds aux Indes. Simplement, elle était allée aux Indes néerlandaises, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'Indonésie. Et là, elle avait observé les danseuses traditionnelles, leurs jeux avec les étoffes. Elle-même avait la peau assez ambrée pour une néerlandaise. Elle ne correspond vraiment pas à l'archétype de la hollandaise, hein, vraiment pas. Elle a la peau foncée, des yeux ardents, une bouche très sensuelle, les cheveux noirs. Et donc, elle joue de l'ambiguïté. Elle réussit à se faire passer auprès des Parisiens pour une authentique orientale, et surtout elle va faire sensation puisque en dansant elle se déshabille. C'est Mata Hari qui a inventé le striptease, et elle porte ça à un très haut niveau puisqu'elle se produit pour la première fois à Paris au musée Guimet, temple de l'orientalisme, c'est-à-dire qu'elle a bien conscience que là vont venir des beaux messieurs, des hommes riches, des gens très chics, parce qu'ils ne viennent pas évidemment juste voir une femme se déshabiller. Ils croient voir les danses sacrées de l'Inde ancienne. Ils croient faire de l'ethnographie, alors que bien sûr ils sont les jouets d'une escroque en réalité, mais d'une escroque de génie qui, après ce coup d'éclat, se mettre nu devant le public dans la bibliothèque du musée Guimet, eh bien, va devenir très célèbre, on va se l'arracher. Tout le monde va vouloir passer une nuit avec Mata Hari. Au fait de sa gloire, ça coûte 50 louis d'or. Une nuit avec Mata Hari, alors j'ai fait le calcul, hein, c'est environ 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. Donc elle va bâtir une petite fortune qu'elle dilapide immédiatement. Et quelques années plus tard, elle est à peu près ruinée. Elle commence à se démoder en tant que danseuse quand éclate la Grande Guerre. En 1914, elle est en Allemagne, son spectacle a du mal à redémarrer, et elle décide de se refaire à travers une autre activité qui est l'espionnage. Donc c'est pas du tout comme dans les films où c'est l'espionne et la danseuse qui sont une seule et même personne en même temps. C'est une ancienne danseuse qui va sur ses 40 ans et qui cherche à utiliser son carnet d'adresses, son entregent, sa connaissance des hommes aussi, au profit des services de renseignement qui payent bien. Le problème, c'est qu'elle va travailler à la fois pour les Allemands et pour les Français, et qu'elle va se faire prendre. Elle se fait prendre parce qu'elle, elle fait du renseignement comme au temps du Chevalier Déon, mais entre-temps, les Français ont mis au point, grâce à la Tour Eiffel, un système d'écoute des communications allemandes qui fait qu'on a très vite la preuve que l'agent H21 des Allemands n'est autre que Mata Hari, que payent par ailleurs les Français. Et donc en 1917, elle est arrêtée, jugée par un conseil de guerre, elle est exécutée à côté du château de Vincennes, au Polygone. Et ce qui est extraordinaire, ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'histoire de Mata Hari ne s'arrête pas avec cette mort tragique. Cette femme, fusillée à 41 ans, qui était une célébrité mondiale, est devenue, plus encore après sa mort, une star mondiale grâce au cinéma, à la publicité, à toutes sortes de produits qui ont utilisé ce nom génial de Mata Hari. Et c'est comme ça que, à travers Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Christel et d'autres qui l'ont incarné, on a vu toutes sortes de Mata Hari à toutes les époques, des blondes, des grandes, des petites. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais Mata Hari est devenue le synonyme de la séductrice, de la femme fatale, de la femme pour laquelle même un officier patriote va se déshonorer en laissant partir des secrets qu'il était censé conserver.
A-t-on eu la vérité lorsqu'on l'a fusillée, ou l'a-t-on fusillée à tort ?
Il est certain qu'elle a espionné. Ce n'était pas une grande espionne, mais il est certain qu'elle a espionné et qu'elle a joué double jeu. Elle n'a pas été la seule à être fusillée à cette époque. Nous sommes en guerre, ne l'oublions pas. La guerre a été déjà très très meurtrière en 1917, et donc on est impitoyable pour les espions et les espionnes. Alors c'est vrai qu'il y a une plus grande réticence à fusiller des femmes, mais les Allemands l'ont fait dès 1915, et une des théories possibles expliquant comment finalement le double jeu de Matahari a été dévoilé si facilement, c'est que les Allemands, sachant que leur communication était espionnée, eh bien l'ont grillé pour obliger les Français à fusiller à leur tour une femme. Parce que les Allemands, dans les pays neutres et en particulier aux États-Unis, qui ne sont pas encore entrés en guerre au moment où elle est arrêtée, eh bien, ont très mauvaise presse pour avoir fusillé des femmes, en Belgique occupée en particulier, et c'est beaucoup utilisé. Ils ont mauvaise presse aussi aux Pays-Bas, qui sont neutres, et justement, les Pays-Bas, c'est le pays natal de Matahari. Donc, en fusillant Matahari, les Français font oublier toutes les femmes que les Allemands ont exécutées, et ça continue de marcher aujourd'hui. Plus personne ne se souvient de toutes ces femmes qui ont été arrêtées, exécutées pendant la Grande Guerre, à part Matahari, qui a pu renaître à travers le cinéma, qui est devenue une figure telle qu'il existe même des flippers, des bijoux, des restaurants à l'enseigne de Matahari.
Matahari, les vies insolentes de l'agent H21, c'est publié aux éditions Gallimard, signé de Bruno Fuligi. Un très beau livre illustré avec beaucoup de documents d'époque, bien sûr. Ça a été facile de retrouver ces documents?
Alors, une partie de ces documents sont conservés au château de Vincennes parce qu'il y a le dossier du Conseil de guerre. Ça, ce sont les documents vraiment d'archives militaires. Et puis après, il y a énormément de choses qui sont dispersées. Donc, ça fait des années que je tente de rassembler tout ce que je peux trouver sur Matahari, photos, cartes postales, affiches. J'ai retrouvé des lettres, j'ai retrouvé des factures, des couturières pas très contentes qui mettent des mois, voire des années à obtenir le paiement des robes somptueuses qu'elles réalisent pour elles. Voilà. Donc c'est un travail patient, et donc entre les archives de la Défense et tout ce que j'ai pu accumuler, il y avait la possibilité de raconter véritablement en images une vie de Matahari. J'ai même retrouvé une photo d'elle, petite fille, photo qui était totalement inédite, et c'est touchant parce que dans cette photo, elle a déjà ce regard très insolent, très noir, qui fixe l'objectif d'une manière insistante, et on est mal à l'aise quand on pense que cette toute petite fille va finir devant un peloton d'exécution. Elle refusera d'ailleurs qu'on lui bande les yeux.
Merci Bruno Fuligi.
Merci.